Seigneur, je te prie que tu m'aides à dire ce que tu as mis sur mon cœur, avec simplicité de cœur et humilité. Amen. Donc moi, je vais vous parler, je vais faire mon message en deux parties. Je vais vous faire un petit compte-rendu de ma semaine au Hellfest, la semaine dernière. Et ensuite, j'enchaînerai sur un message en lien. Donc cette année, on était 10 sur le festival. Si tu veux mettre la photo, Max. Donc en fait, il y avait deux missions. Il y en avait une qui était à Clisson, Hellfest, celle-ci dont je faisais partie. Et il y en avait une autre en Belgique, au Grass Pop. Donc moi, j'étais au Hellfest, donc je vais vous parler du Hellfest, pas du Grass Pop. Donc cette année, on était 10. Je vais faire ça dans l'ordre chronologique. On est arrivé le mercredi. Il y a une partie de l'équipe qui nous attendait déjà, qui est arrivée le mardi pour planter les tentes et réserver les emplacements, parce que c'est un énorme camping. La chaleur commençait déjà à être étouffante. On a monté nos tentes autour de ce qu'on appelle la Metal Chapel. La Metal Chapel, donc là, on ne la voit pas sur cette image, mais c'est deux grands barnums qui permettent d'être à l'ombre, et on a même une partie qu'on peut fermer pour s'isoler si des gens veulent parler de façon plus confidentielle. Alors le mercredi, c'est un grand moment pour tous les missionnaires de la Metal Mission, parce qu'on se retrouve et à chaque fois, il y a toujours ce verset qui revient dans Psaume 133, « Ah, qu'il est doux pour des frères, qu'il est agréable de demeurer ensemble. » Et c'est vraiment, chaque année, dès qu'on se retrouve, c'est vraiment un grand bonheur. Cette année, quand on est arrivé, c'est à moi qui a été confié la tâche de faire un petit message d'exhortation. Et j'ai trouvé intéressant, en fait, de vous en parler, je ne vais pas développer, hein, je vais juste le survoler. Mais moi, j'ai eu à cœur de parler de 1 Samuel 13 et 1 Samuel 14. En particulier, à partir du verset 19 dans 1 Samuel 13, c'était « On ne trouvait point de forgerons dans tout le pays d'Israël, car les Philistins avaient dit « Empêchons les Hébreux de fabriquer des épées ou des lances. » Et chaque homme en Israël descendait chez les Philistins pour aiguiser son soc, son hoyau, sa hache et sa bêche. Quand le tranchant des bêches, des hoyaux et des tridents, des haches était émoussé, et pour redresser les aiguillons. Il arriva qu'au jour du combat, il ne se trouvait ni épée ni lance entre les mains de tout le peuple qui était avec Saül et Jonathan. Il ne s'en trouvait qu'auprès de Saül et Jonathan, son fils. » Moi, j'ai eu ce verset parce qu'il y a 2 ans, nous, à la base, on distribuait des Metal Bibles, donc c'est des Nouveaux Testaments au format papier. Et ensuite, il y a eu des règles relatives à l'écologie. On est passé au zéro papier. On nous a dit, maintenant, c'est terminé, vous ne distribuez plus de Bible. Et on est plusieurs à vraiment avoir eu un peu le sentiment qu'on nous volait nos armes. Voilà. C'est aller évangéliser les gens sans avoir un cadeau à leur donner. C'est difficile. Ça a été très difficile. Mais en continuant ma lecture, dans 1 Samuel 14, bon, que je ne vais pas lire, mais ça a confirmé une stratégie qu'on avait depuis le début. C'était celui d'aller deux par deux. Donc 1 Samuel 14, pour la petite explication, c'est Jonathan et son porteur d'armes qui prennent un poste philistin à deux. Le premier terrasse les Philistins, le second les achève. Et le chapitre explique qu'en tout, il terrasse une vingtaine d'hommes sur la moitié d'un arpent de terre. Donc c'est étalé sur la distance. Et bon, il y a aussi l'aspect d'être guidé par l'esprit. Il y a tout un dialogue sur lequel je ne vais pas m'étendre, mais voilà, c'était une bonne exhortation, je trouve. Alors, quand on a planté nos tentes et qu'on s'est installé, on a commencé à avoir des habitués qui nous reconnaissent. Alors, c'est assez amusant parce qu'on a des « Ah, bah, salut la Metal Mission enfin, !» On nous reconnaît. On a aussi des gens qui nous connaissent pas frontalement, mais qui savent qui on est. Des fois, on entendait les gens passer et « Ah, regarde, c'est les chrétiens, là, c'est les chrétiens métalleux. » Il y en a même qui venaient pour réclamer des Bibles au format papier parce qu'ils nous ont vus il y a 2 ans, il y a 3 ans. Mais du coup, on peut plus. On leur explique que maintenant, c'est format numérique, puisqu'on a développé une application. Parfois, on a aussi des gens qui manifestent de l'hostilité. C'est plus rare. C'est plus rare, mais c'est souvent lié à un état spirituel. On a des gens qui ne se cachent pas et qui viennent nous dire clairement qu'ils sont contre nous, qu'ils ne servent pas le même maître que nous. Et là, je vais commencer à attaquer les rencontres marquantes, parce que cette année, c'est une nouveauté. Et gloire à Dieu, mais on a deux personnes qui se sont converties sur le site du Hellfest. Là, alors, je vais vous parler des deux, mais il n'y a que la première dont j'ai été témoin. Donc, le premier, c'est un soir où on rentrait, donc c'est après les concerts, hein, il fait nuit. Là, on n'évangélise plus parce que les gens sont trop alcoolisés généralement. Donc, on prend le chemin du retour pour rentrer sur le campement. Et on était ouais, deux ou trois frères à marcher en ligne. Et il y en a un qui, sans faire exprès, il bouscule un autre festivalier. Bon, alors, l'ambiance est généralement très bonne enfant, donc ils s'excusent mutuellement, il n'y a pas d'offense. Et du coup, notre missionnaire, il commence à parler avec le festivalier, puis ils marchent ensemble, ils marchent. Et bon, connaissance missionnaire, on savait qu'il allait parler de Jésus, c'était assuré. Et donc, il continue à marcher, on le laisse aller, et nous, on rejoint le campement. Et puis, quelques minutes plus tard, on voit ce frère missionnaire arriver, toujours avec ce festivalier. Et donc, moi, j'étais assis, hein, c'est la fin de journée, je suis crevé, ça devait être 2h du matin, un truc comme ça. Je suis assis sur ma chaise, et je le vois arriver, et j'entends juste « t'es d'accord ?» Et le festivalier qui dit oui. Et là, ils ferment les yeux, ils se mettent devant les tentes et il s'est déclaré pour Jésus. Voilà. Il a répété une prière après le frère et il a donné sa vie à Jésus. Normalement, il devait revenir nous voir sur le camp, on ne l'a pas revu. Après, moi, ce que j'ai été témoin, c'est qu'il s'est déclaré pour Jésus publiquement. Le deuxième, alors là, j'y étais pas, c'est des frères qui ont fait le compte-rendu par la suite. Donc, c'est en journée, un binôme d'équipiers qui aborde un festivalier. Et ce festivalier, il explique qu'il est scientifique, qu'il fait carrière. Alors, je n'ai plus le détail, mais c'est quelqu'un de science. Et en fait, au travers de la science, Dieu s'est présenté comme une évidence à ses yeux. Mais il a cheminé seul jusque-là. Il n'a pas d'assemblée, il n'a pas d'église. Je pense qu'il ne devait même pas se définir comme chrétien. Mais le fait de rencontrer nos deux missionnaires, il a voulu aller plus loin. Donc les deux frangins ont proposé de prier avec lui. Il a accepté et lui aussi, il a fait une prière d'acceptation. Et lui, pour le coup, on l'a revu. Il est revenu plusieurs fois sur le camping. Il y a aussi eu ses amis qui sont venus parce qu'ils avaient des questionnements. Voilà. Et là, je vais vous parler aussi de ma rencontre marquante à moi. C'était un soir, du coup, on avait arrêté d'évangéliser, on était bien fatigués. Et donc, on se rend sur le site du festival pour chercher à manger et s'asseoir. Donc, généralement, à cette heure-ci, toutes les tables sont remplies de monde. Comme c'est le soir, ce que j'expliquais, hein, passer une certaine heure, on évangélise plus trop parce que c'est difficile d'avoir des conversations sérieuses avec les gens. Et on trouve une table avec trois places. Et là, il y a un festivalier qui est assis à cette table et il nous vanne gentiment, je ne sais plus exactement ce qu'il lui dit, mais il dit ouais, bah, je vous autorise, venez. Venez vous asseoir à ma table. Et il y avait un des missionnaires qui avait un t-shirt avec une tête de mort stylisée. Et en dessous, c'était écrit en anglais « These bones will live again ». Ça veut dire « Ces os viendront à nouveau à la vie ». C'est une référence à Ézéchiel 37,4, la vallée des ossements desséchés. Et il voit ce t-shirt et il nous dit ouais, « C'est quoi ce groupe? Je ne connais pas ». Alors nous, on était un petit peu émoussés par la journée, on n'a pas réagi. Enfin, on essaye de baragouiner l'explication, mais ça passe à autre chose avec le brouhaha, etc. Et puis, bon, on s'assoit et puis on continue de discuter. On se présente un petit peu d'où on vient. Et là, le gars, il tilte et puis il nous dit, alors, toi, t'es de Lyon, toi, t'es d'Alsace, toi, t'es de Vendée. C'est quoi le point commun pour que vous vous retrouviez ici? Et du coup, je dis, bon, bah, Seigneur, là, je tilte. Je dis, mon Seigneur, c'est l'autoroute. Bon. Donc, je le regarde et je lui dis, ben, c'est son t-shirt. C'est son t-shirt. Il dit, son t-shirt. Donc, on lui explique qu'on est une association chrétienne. Et... et là, en fait, c'est toujours le moment où on a y a un basculement. Soit le gars tire la tronche, genre, qu'est-ce que c'est, ça me fait pas plaisir de vous voir là, soit c'est l'étonnement. Et là, grand sourire. Et il nous dit, c'est incroyable de vous trouver ici, quoi. Et puis, il nous dit, moi, ce que je trouve merveilleux, c'est que vous soyez là, et puis, en fait, qu'on puisse se parler normalement. Donc on poursuit la discussion, je lui donne mon témoignage en accéléré, et je ne sais pas pourquoi Dieu m'indique, enfin, mon témoignage s'oriente sur une partie, je lui explique, bon, je suis né dans une famille chrétienne, je crois en un Dieu qui notait tous mes péchés et devant lequel je devrais rendre compte à ma mort, que j'avais la volonté de faire le bien, mais que je n'y arrivais pas, et je me suis dit, alors, dans ce cas-là, c'est l'enfer qui m'attend, jusqu'à ce que j'ai une révélation de la grâce de Dieu. Du coup, je lui parle de ma relation personnelle à Dieu et sur le fait de s'appuyer sur lui. Voilà. Donc ça, c'est vraiment une version ultra accélérée. Et là, on sent que le gars est travaillé, mais il poursuit dans un discours un petit peu ensembliste. Non, mais je respecte, mais je suis athée. Mais c'est merveilleux qu'on puisse se parler, le tout dans le respect. Et l'important, c'est qu'on s'efforce tous de faire le bien. Et là, ben, du coup, j'embraye et je lui dis, c'est super comme façon de penser, mais... Si tu as écouté ce que je t'ai dit il y a 5 minutes, moi je voulais faire le bien et je n'y arrivais pas. Et du coup, ben, je ne savais pas trop quoi dire. Et il continue avec des poncifs un petit peu ensemblistes. Et puis au bout d'un moment, ses amis se lèvent pour partir. Et là, il dit allez-y sans moi, je reste encore un peu avec eux. Enfin, il y avait vraiment un super concert qui arrivait, quoi. Et le gars dit à ses potes, et ses potes, ils le regardent tous. Ça va, surtout que ça avait l'air vraiment d'être le bout en train de la bande, le gars qui a jamais de discussion sérieuse, quoi. Donc du coup, il reste un peu avec nous, on continue à avoir une discussion qui n'est pas hyper fructueuse, mais on sent qu'il y a quelque chose en lui qui était tiraillé. Il y avait quelque chose qui voulait sortir, qui n'arrivait pas. Au final, il a fini par nous quitter pour rejoindre ses amis, mais on sent que quelque chose ne le laissait pas indifférent. Et il a entendu mon témoignage, les graines ont été semées, et on sait que un jour, peut-être, voilà. On est aussi tout à fait OK avec le fait que c'est possible qu'on ne voit pas les fruits. On rend grâce à Dieu pour ce qu'on voit. Mais voilà. Un autre témoignage, c'est un après-midi où je tenais la Metal Chapel, ce grand barnum, avec un autre missionnaire. On reçoit la visite de deux festivaliers. Des amis de longue date. Et à les écouter, moi, dans ma tête, je me dis ça, c'est des partenaires de crime. Parce que j'écoutais leur vie et vraiment, ils avaient fait les 400 coups ensemble. Alors, il y en a des deux qui étaient un peu trop éméchés. C'est un peu compliqué d'avoir une discussion avec lui. Mais l'autre, j'ai pu donner mon témoignage. Il a entendu mon témoignage. Et il nous parle un peu de leurs soucis physiques, de santé. Et je lui propose de prier pour lui. Et là, la réaction est instantanée, elle lui dit « Non, prie pour mes enfants. Prie pour mes enfants, c'est l'avenir. » Et là, je ne sais pas, là, il ouvre la porte et il me dit « Tu sais, je suis quelqu'un de très timide. Je suis incapable d'avoir une discussion sérieuse avec mes proches si je n'ai pas un petit coup dans le nez. Sauf qu'après, je vais trop loin et je regrette. » Et le souci, c'est qu'on n'a pas pu vraiment poursuivre la discussion. Parce qu'il devait gérer son copain qui commençait à faire n'importe quoi. Il est parti, mais il sait que je vais prier pour lui. Et il a entendu mon témoignage. Un autre témoignage, c'est que tout au long du festival, on reçoit régulièrement la visite de deux festivaliers qui s'assoient à l'ombre avec nous. La chaleur est super difficile. On voit qu'eux, ils sont vraiment en galère, quoi. C'est vraiment, chaque fois qu'ils s'assoient, c'est le soulagement, mais c'est incroyable. Et en apparence, ils n'ont pas l'air de s'intéresser à notre message. Mais ce qu'on constate, c'est qu'ils reviennent régulièrement s'asseoir avec nous. Ils nous observent. Et le dernier jour, d'ailleurs, c'est en fin d'après-midi, alors qu'il n'y a plus d'ombre. Il n'y a plus d'ombre. On avait démonté les Barnum. Il y en a un des deux qui vient encore s'asseoir avec nous, sans discuter. Juste, il vient avec nous. Et moi, ma conviction profonde, c'est quelque chose qu'on a réalisé au fil des années, c'est vraiment qu'on est dans Jean 13, 35. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Et je sais que c'est quelque chose qui revient souvent, des fois, avec des gens qu'on recroise, c'est qu'ils disent qu'ils voient comment on fonctionne, comment on vit ensemble. Et il y a quelque chose, quoi. C'est pas le même genre d'amitié qu'on peut voir. Il y a un truc. Surtout sur un groupe aussi nombreux. Et d'ailleurs, c'est cet amour qui nous déchire à chaque fois au moment de se quitter. Parce que bon, là, je vous ai partagé différents témoignages, mais il y a aussi le moment où chaque missionnaire doit rentrer chez lui. Et on est tous d'accord pour se dire quand on rentre que ce qui nous manque, c'est pas le festival, c'est pas la musique, mais le fait d'avoir ses frères et sœurs en Christ près de soi. Donc là, j'ai fini pour la partie compte-rendu du Hellfest. Je voulais vous proposer, comme je n'ai pas souvent l'occasion de parler de ça, si vous, jamais vous avez des questions, je peux y répondre maintenant. Ça peut être sur n'importe quoi. Voilà. Je peux vous laisser 30 secondes si jamais vous voulez. Et après, je poursuis sur le message pur et dur. Voilà. En tout cas, donc levez la main si jamais il y en a. En tout cas, je voulais vraiment remercier tous les frères et sœurs de l'Église qui nous ont soutenus, que ce soit financièrement, que ce soit par la prière. C'était très, très, très important. Et puis c'est tout, en fait. Merci. Merci, parce qu'en fait, c'est parce que vous étiez aussi derrière nous qu'on a pu le faire. Voilà. Pas de questions, pas de... Bon, après, on aura le temps d'en discuter après. Alors, je vais juste revenir un petit peu à il y a 2 ans, je crois, à peu près, quand j'ai présenté ma candidature au conseil d'administration du Tabernacle. J'avais parlé du slogan « En Christ, une famille en action ». Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais je vous avais dit que mon rêve, c'était d'atteindre le stade « Une famille au sein de l'Église » pour servir ensemble Jésus de façon tangible, en action. Et je crois que nous sommes en chemin vers la consolidation de cette famille en Christ. Et du coup, quoi de mieux qu'aujourd'hui, où dans quelques heures, nous partagerons un repas entre frères et sœurs pour aborder ce thème. Je vais juste relire un verset que François a donné il y a 2 semaines, je crois. C'est dans Actes 2, 45 à 47. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens, et ils en partageaient le produit entre tous selon les besoins de chacun. Ils étaient chaque jour tous ensemble assidus au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur, louant Dieu et trouvant grâce de tout le peuple, auprès de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Ce verset, il est parfait parce qu'il parle de famille et de simplicité de cœur. Mais est-ce que... Je ne sais pas si ça vous fait cet effet, mais quand on lit ce genre de verset, il y a un peu une version romancée de l'Église qui se dessine. Hein, c'est un peu... on a un peu, voilà, moi quand je lis ce verset, je me dépeins une scène, hein, un peu où tout le monde est angélique, tout le monde prie les mains jointes, rompt le pain, boivent du vin, mais pas trop, hein, voilà. Moi en fait, du coup, quand je lis ça, je me dis, c'est vrai que parfois dans l'Église, il manque un peu la simplicité de cœur. Parfois, on a peur de juger. On a peur d'être jugé, on a peur de choquer, on a peur d'être une pierre d'achoppement, on a peur d'être repris, et en bref, on a peur de ne pas être aimé pour ce qu'on est vraiment. On met notre masque de gentil chrétien le temps du dimanche, on laisse le paquet de clopes au fond de la poche, on adopte un langage plus policé, on évite certains sujets qui peuvent gêner. Alors, je ne suis pas en train de dire que c'est bien de fumer ou de mal parler, hein. C'est juste que... Lorsque l'on est dans une famille, on doit pouvoir se comporter sans faux semblant. Moi, des fois, je me pose la question, est-ce que je me comporte pareil quand je suis dans un cadre chrétien et non chrétien ? Entre frères et sœurs, il faut être lucide sur notre condition de pécheur et avoir une discipline d'église basée sur l'amour. Lorsqu'il est écrit dans Matthieu 18:15, « Si ton frère a péché, va et reprends-le entre toi et lui. » entre toi et lui seul, et s'il t'écoute, tu as gagné ton frère. Suivi de toute la discipline d'église qui suit. Est-ce que vous pensez vraiment que ça marche comme ça, sans amour ? Est-ce que ça peut marcher comme ça ? Est-ce que, pour les vieux combattants de l'église, est-ce que souvent ça marche ? Souvent ça marche pas. Hein. En fait, souvent, ouais, c'est... En fait... Reprendre quelqu'un dans l'amour, c'est pas simplement verbaliser « Écoute, je t'aime d'un amour fraternel, donc il faut que je te dise 3 petits points. » Parce que ça, souvent, c'est plutôt la formulation polie pour dire à quelqu'un ses 4 vérités. Quand l'amour est là, il y a une relation de confiance entre frères et sœurs, et ça dispense la verbalisation. Et pour ça, il faut faire connaissance, passer du temps ensemble, partager un bon barbecue, par exemple. Si je vais essayer de prendre un exemple tangible, mais alors c'est dommage, il n'est pas là aujourd'hui. Mais je pense par exemple qu'un Pierre-Antoine pourrait me dire beaucoup plus de choses que beaucoup de frères et sœurs dans l'église, parce qu'on se connaît depuis l'adolescence, et que je sais qu'il m'aime, et que s'il me le dit, c'est parce qu'il m'aime. Dans l'église, on met beaucoup l'accent sur l'amour agapé au sein de nos assemblées. Est-ce que quelqu'un peut me donner une définition de l'amour agapé ? C'est quoi l'amour agapé ? Alors, pas une définition du petit Robert, même si c'est avec vos mots ou si vous paraphrasez. Un amour qui n'attend rien en retour. Quelqu'un d'autre ? C'est tout ? Inconditionnel. D'accord. Sacrificiel. Ouais. Alors, la définition que j'avais trouvée, c'était un amour fraternel, universel, altruiste, spirituel. Il se donne gratuitement, de manière désintéressée, sans attendre de retour. Il est inconditionnel. Il accepte l'autre tel qu'il est, avec ses qualités et ses défauts. Il souhaite son bien-être sans profit personnel. Il a de la compassion pour l'autre et l'aime, même s'il n'est pas aimé de lui. C'est un amour affranchi de l'ego qui se situe au-delà de l'émotionnel. D'accord ? Donc ça, on est tous d'accord pour dire que ce genre d'amour sans Christ, il est inatteignable. C'est bon ? Alors, il y a aussi une autre forme d'amour. Alors, il y a l'amour éros, qui est l'amour charnel, mais bon, c'est pas le sujet. Et il y a l'amour philia. Donc, c'est, à mon avis, c'est un amour qu'on devrait aussi cultiver pour être une famille en action. L'amour philia, je vais vous donner la définition que j'ai trouvée, ça sera plus simple. L'amour philia, c'est l'attachement lié à un sentiment d'amitié, associé à des valeurs, des centres d'intérêt communs et des objectifs communs. Il prend appui sur des plaisirs partagés, barbecue, des échanges, du jeu, de la solidarité et de la complicité. La relation est chaleureuse et affective, chacun ayant le souci de l'autre. Cependant, il est conditionnel car fondé sur des activités ou des vécus partagés. C'est pas aussi bien que l'amour agapé. Donc moi, mon message, et c'est là-dessus que j'introduirai la Sainte Cène dans l'instant, c'est qu'en Christ, nous avons un amour agapé les uns pour les autres, et c'est un don de lui, mais il nous appartient aussi de cultiver l'amour philia, afin de devenir une famille et un corps en Christ.
Merci.